Frères et sœurs, je vous dis bonjour. Malgré les limites que la technologie permet ou impose à la communion fraternelle. Alors, bien des gens pensent que la vie nouvelle en Christ, c'est un rafistolage ou un raccommodage de l'ancienne manière de vivre. Alors, c'est vrai qu'avec de l'ancien, Dieu peut faire du nouveau. Avec du moche, il peut faire du beau. Mais l'apôtre Paul, en 2 Corinthiens 5, 17, nous dit que si quelqu'un vit en étroite relation avec le Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Et la bonne nouvelle, c'est que quand Dieu fait les choses, il ne les fait pas à moitié. Et donc, c'est sur cette thématique de la nouvelle vie, du changement, que je me propose de méditer avec vous ce matin. Le changement, c'est maintenant. Alors, le changement, c'est une thématique porteuse, vendeuse. Un ancien président récemment s'est fait élire sur la base de cette thématique, mais qui n'a pas envie de changer de vie? Et je me propose avec vous de survoler ce passage de l'épître de Paul aux Éphésiens. C'est une grande section, on va survoler l'essentiel, 4:17 à 5:21. C'est une mise en bouche qui, je l'espère, vous donnera envie d'aller plus loin. Alors, je vais lire ces versets. Tout d'abord, au chapitre 4, versets 17 à 19, Paul va montrer l'arrière-plan d'une personne qui ne connaît pas Jésus, là d'où elle vient. Voici, mes citations sont tirées de la version Bible du Semeur. Voici donc ce que je vous dis. Ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens, qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie, et ils sont étrangers à la vie que Dieu donne, à cause de l'ignorance qui est en eux, et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Voici le portrait robot implacable d'une personne qui ne connaît pas Jésus. Alors Paul mentionne au moins six caractéristiques. Elle dit d'abord que la personne qui ne connaît pas Jésus, eh bien, elle marche selon la vanité de ses pensées. Pour employer une image tirée de l'informatique, on pourrait dire que son processeur tourne à vide. Deuxièmement, elle a l'intelligence obscurcie. Il y a un voile qui l'empêche de voir la réalité morale et spirituelle. En troisième lieu, cette personne, elle est étrangère à la vie de Dieu. Vous est-il arrivé de vous trouver dans un pays étranger dont vous ne parlez pas la langue. Vous êtes un étranger, un barbare pour celui à qui vous vous adressez, et eux en sont un également pour vous. En quatrième lieu, Paul dit, la personne qui ne connaît pas Jésus, elle ignore la vérité. Et dans la vie, il est des vérités dont on ne peut se permettre d'ignorer. Et il y a des vérités qu'il importe au plus haut point de connaître. En cinquième lieu, la personne qui ne connaît pas Jésus, elle a un cœur endurci, un cœur dur comme pierre. Que vous lui dites blanc, que vous lui dites noir, c'est comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Et puis, la sixième caractéristique au verset 19, Paul dit que cette personne, livrée à son état naturel, elle a perdu tout sentiment, elle se livre à la dissolution et commet toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Alors, En somme, cette personne, elle appelle mal ce que Dieu appelle bien, elle appelle bien ce que Dieu appelle mal, elle inverse les valeurs, elle s'adonne à l'impureté morale, et probablement qu'il est question ici d'immoralité sexuelle. Alors donc, voilà comment Paul qualifie l'ancienne manière de vivre d'un être humain livré à ses propres ressources. Il y a un problème au niveau de sa façon de raisonner, ses pensées vides de sens. Il y a un voile sur son intelligence qui s'en trouve obscurcie. Elle est étrangère, aliénée à la vie de Dieu. Elle ignore la vérité qui fait vivre et qu'il importe de connaître. Elle a un cœur dur comme pierre, donc sa responsabilité est pleinement engagée. Et enfin, elle appelle mal ce que Dieu appelle bien et bien ce qu'il appelle mal. C'est le dérèglement moral. La question que vous allez me poser, et franchement, ça me fait plaisir que vous me la posiez, avec un tel tableau clinique, docteur, comment est-il possible de changer? C'est la bonne question. Parce que voilà l'arrière-plan dont chaque être humain livré à ses propres ressources, descendant de Adam et de Ève, provient. Comment peut-il changer? C'est toute la question. La bonne nouvelle, c'est que Paul, dans les versets suivants, va répondre précisément à cette question. Et vous retiendrez, au fil de la lecture, trois mots clés qui constituent d'établir ce qu'on appelle la théologie du changement. Pourquoi est-il possible qu'un descendant de Adam et de Ève, qui était esclave de ses vices, de ses passions et de ses hormones, puisse devenir un enfant de Dieu qui rend à Dieu un culte en esprit, en vérité, et qui apprend à aimer son prochain comme lui-même. Verset 20, toujours dans Éphésiens chapitre 4e, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, puisqu'on vous a fait savoir ce qu'il est et qu'on vous a enseigné dans le cadre de votre union avec lui, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. » Et au verset 21, vous voyez qu'il y a cette vérité cruciale, fondamentale, qu'il faut bien comprendre. Verset 22. Cela consiste, 1. À vous débarrasser, d'autres versions rendent vous dépouiller, de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs. À être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour être juste et saint conformément à la vérité. Alors selon Paul, voilà les trois mots-clés qui permettent de fonder la théologie du changement. Verset 22, 1, se débarrasser ou se dépouiller. 2, au verset 24, se revêtir, après le dépouillement, le revêtement, et puis 3, être renouvelé. Ces trois mots-clés expliquent la raison pour laquelle il est possible qu'une personne qui était esclave du péché puisse devenir un enfant de Dieu qui marche en conformité avec l'image de Jésus. 1, se débarrasser de son ancienne manière de vivre. Je ne suis pas un grand bricoleur devant l'Éternel, mais quand je bricole et que j'ai la joie de voir ce que je fais, il y a un moment que j'aime beaucoup. C'est quand, après avoir bien transpiré et sali mes vêtements, et dans ma petite tête de moyen petit bricoleur, je me dis que plus mes vêtements sont sales, plus j'ai dû transpirer et bien travailler. Alors, au moment de prendre la douche, on quitte les vêtements sales et puis on prend la douche et on revêt un vêtement nouveau, propre. Eh bien, la théologie du changement, ça correspond à ce que Paul nous enseigne dans Romains 6, versets 3 et 4, à savoir que quand Christ est mort à la croix, Dieu m'a identifié au Christ dans sa mort. Je suis mort avec lui au péché, Et on peut dire que mon ancienne manière de vivre, c'est mon ex. Et nous baptisons par immersion pour bien signifier cette réalité spirituelle. La personne ressort de l'eau, cela exprime son identification au Christ ressuscité. Et Paul dit que nous sommes ressuscités avec Christ et nous sommes équipés pour marcher à la hauteur de la volonté de Dieu. Voilà cette vérité qui est en Jésus. Et le verset 21 nous dit bien, dans le cadre de votre union avec Christ, uni au Christ, identifié au Christ dans sa mort, et dans sa résurrection. C'est toute la symbolique du baptême et c'est ce qui permet de se dépouiller ou de se débarrasser de son ancienne manière de vivre, le dépouillement, et de revêtir l'homme nouveau, le revêtement. Et dans l'original, cela n'apparaît pas dans nos traductions, vous débarrasser ou vous dépouiller et vous revêtir, le dépouillement et le revêtement sont un aoriste en grec qui indique que cette action, elle a eu lieu une fois pour toutes, mais les conséquences durent au quotidien, en continu. Et le troisième verbe à souligner, au verset 23, « être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence », le renouvellement. Alors, le dépouillement et le revêtement ont eu lieu une fois pour toutes, les conséquences durent en continu, au quotidien. Le renouvellement, c'est un présent progressif. En permanence, en continu, nous sommes renouvelés par l'action du Saint-Esprit. Et donc, la théologie du changement repose sur le fait que nous nous sommes dépouillés, le dépouillement, nous avons revêtu la nature nouvelle du Christ, le revêtement, et puis nous sommes renouvelés. Voilà donc les trois mots-clés à retenir ce matin. Le dépouillement, le revêtement, le renouvellement. La deuxième question que vous allez me poser, et sincèrement, ça me fait plaisir que vous me la posiez. Vous allez me dire, mais tout ça c'est bien joli, c'est la théorie. Mais comment ça marche dans la pratique? Parce que c'est ça la question. Eh bien, une fois de plus, en bon pédagogue qu'il est, l'apôtre Paul va répondre dans les versets qui suivent, à cette question de savoir comment le changement peut opérer dans la vie d'une personne qui revient de loin. Elle était étrangère à la vie de Dieu, elle appelait bien ce que Dieu appelait mal, elle ignorait la vérité, son intelligence était obscurcie, et son processeur tournait à vide. Et Dieu va lui permettre d'être dépouillé de son ancienne manière de vivre, revêtir la nature du Christ et être renouvelé en continu. Et dans les versets qui suivent, Paul va prendre, si on va jusqu'au verset 21 du chapitre 5e, 9 exemples différents, concrets, tirés de la vie de tous les jours. Vous allez remarquer que ces exemples pratiques qu'il prend, tirés de la vie quotidienne, ont trait au rapport à autrui. Ben oui, parce que la véritable sanctification, ça ne se vit pas dans ma tour d'ivoire, quand je suis tout seul dans ma salle de bain, mais c'est dans le rapport à autrui. C'est ça le défi. Alors, premier domaine, et dans ces 9 domaines, Paul va nous dire, il faut dire non à la chair qui tire vers le bas, et oui à la volonté de Dieu qui tire vers le haut. Premier domaine où la vie nouvelle doit se manifester, c'est dans la manière dont nous communiquons avec autrui. Au verset 25e, Paul dit « c'est pourquoi ». Le « c'est pourquoi », pardonnez-moi ce rappel de la grammaire française en ce beau dimanche matin, « c'est pourquoi », ça induit, ça implique un rapport étroit avec ce qui précède. Vous vous êtes dépouillé, vous avez revêtu, vous êtes renouvelé. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Alors, avec une manière très pédagogue, Paul va affirmer la même chose tantôt d'une manière négative, tantôt d'une manière positive. Renoncez au mensonge, non au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité. Oui à la vérité. Dieu est le Dieu véritable. Jésus est la vérité. Le Saint-Esprit est l'Esprit de la vérité. Eh bien, une personne qui se réclame du nom de Jésus, elle doit être caractérisée par la vérité. Et Paul invoque un motif théologique pour lequel nous devons dire non au mensonge et oui à la vérité. Je l'ai mis en italique, car nous sommes membres les uns des autres. C'est l'effet boomerang dans les relations. Le bien ou le mal que je choisis de faire à mon prochain, d'une façon ou d'une autre, me retombe dessus. C'est le retour à l'envoyeur. C'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Et vous avez remarqué que cette première exhortation à rechercher la sanctification, c'est dans le domaine de la communication envers autrui. Deuxième domaine, la manière dont nous gérons nos émotions. Deuxième domaine où la vie nouvelle doit se manifester, versets 26 et 27. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Vous avez remarqué que l'apôtre Paul ne dit pas, les frères et les sœurs, regardez-moi, un vrai chrétien, un bon chrétien, un pur, un dur, ça ne se met jamais en colère. Non, c'est pas ça qu'il est en train de dire. Ça me fait penser à un jeune converti qui disait « Seigneur, enlève mes désirs sexuels ». La solution, ce n'est pas de les enlever, mais c'est d'apprendre à les gérer. Et la colère, c'est une émotion forte que nous devons également apprendre à maîtriser. Qui l'eût cru? La colère, c'est un des attributs de Dieu qui apparaît d'une façon suprême à la croix de Jésus, comme nous venons de le rappeler en participant à la Sainte Cène. La colère de Dieu qui devait nous tomber dessus, elle a été imputée à Jésus, qui l'a endossée. Et lui qui était innocent, il a été traité comme un coupable pour que le coupable que je suis puisse être traité comme un innocent. C'est ça le message de l'Évangile. Dieu se met en colère. Qu'est-ce qui déclenche la colère de Dieu? C'est le péché de sa créature. Si Dieu n'était pas saint, le péché de sa créature n'aurait pas lieu de déclencher cette juste et saine et sainte réaction qu'est la colère. Alors le problème, c'est que avec la colère, cette émotion forte, nous sommes plus souvent habitués à la version négative de la colère. Rien qu'à entendre ce mot, dans l'esprit de certaines personnes, il y a 13 lumières rouges, comme des signaux d'alarme, qui se mettent à clignoter. Il y en a même qui entendent des objets volants identifiés, peut-être les assiettes de la tante Hortense. Si vous avez une tante qui s'appelle Hortense, ce n'est pas d'elle dont je parle, je vous rassure. Jésus, quand il a vu comment on avait changé, comment la religion avait changé ce qui devait être l'espace où on rend à Dieu un culte en esprit, en vérité, en centre commercial où on fait du business, Jésus a renversé les tables des changeurs de monnaie dans le temple. Il est écrit que ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait un repaire de brigands. Il y a des situations qui devraient déclencher chez nous une juste et sainte colère. Jésus n'avait aucun intérêt personnel à défendre. Et puis Jésus n'a pas eu besoin de demander pardon en disant « Ah, oh, je vous demande pardon, mes amis, mais là, mon sang n'a fait qu'un tour, je n'ai pas vu venir, et là, je vous demande pardon. » Non. La colère de Jésus, quand il a renversé les tables des changeurs de monnaie, elle était assumée, elle était justifiée, elle était désintéressée, et elle cherchait à faire avancer la cause du royaume. Rien à voir avec la colère négative ou incontrôlée qui fait des ravages, dont nos quotidiens en font l'écho. Vous aurez remarqué dans ce verset, à la fin du verset 27e, le motif théologique que Paul invoque. Ne donnez pas accès au diable. Dieu sait si une situation conflictuelle, non résolue, non traitée comme il se doit, donne des droits à l'adversaire ou ouvre la porte à l'ennemi ou lui tend le bâton pour que nous essuyions après coup des retours de bâton. Et Dieu sait si pour trouver le sommeil le soir, mieux vaut s'endormir en ayant résolu un problème de relation au risque d'enfoncer encore davantage la sécurité sociale dans le déficit financier en abusant des produits psychotropes. Troisième domaine où la vie nouvelle doit se manifester, non au vol, oui à la bienfaisance, au verset 28, Paul dit « Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. » Imaginez une personne qui, avant de connaître Jésus, avait tendance à voler. Elle rencontre Jésus, sa vie change du tout au tout. Elle se met à travailler, et avec l'argent légitimement gagné, à la sueur de son front et à la force de son poignet, elle met son amour en action. Elle déchaîne son cœur et elle vient en aide à ceux qui sont dans la précarité. Martin Luther, avec son humour bien luthérien, bien à lui, aimait à faire remarquer que chez le chrétien, la dernière chose à convertir, c'est le porte-monnaie. Parce que, selon lui, quand il voyait un chrétien délier les cordons de sa bourse, eh bien, pour lui, ne cherchez pas docteur, tout est converti chez le chrétien. Quatrième domaine où la vie nouvelle se manifeste, non aux paroles blessantes, oui aux paroles édifiantes. Versets 29 et 30. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Dans l'original, c'est pourri. Aucune parole pourrie. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Le motif théologique qu'il invoque, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Naturellement, tout péché est de nature à attrister le Saint-Esprit. Mais dans le contexte, le péché de la langue, tout particulièrement, est de nature à attrister le Saint-Esprit. J'ai écrit un livre, Régler mes problèmes personnels, et j'ai tenu à consacrer un chapitre à, vous savez, à ces passions dangereuses, aux fameux péchés capitaux que la théologie catholique a très bien identifiés. J'ai ajouté le problème de l'hypocrisie religieuse, mais aussi les péchés de la langue. Je ne sais pas combien de messages vous avez entendus sur les péchés de la langue, mais curieusement, je trouve que dans nos églises, à croire que, ou bien il y a beaucoup de gens qui sont bègues, ou bien beaucoup de gens qui sont mutiques, pourtant, on passe une bonne partie de sa vie à parler. Si on devait recenser dans un ouvrage ce que l'on prononce dans une journée, il y a parmi nous de grands auditeurs, de grands auteurs et autrices, et auteurs avec un E à la fin, qui dépassent les limites qu'on peut imaginer. Une parole positive de grâce. Jésus, le serviteur de l'Éternel, selon Ésaïe, qu'il avait annoncé, c'était quelqu'un qui devait, par ses paroles, bénir, édifier, encourager. Et Dieu sait si aujourd'hui, comme dit le livre des Proverbes, la vie ou la mort est au pouvoir de la langue. Et Dieu sait si avec un mot de travers ou une parole mal calibrée, on peut démolir en un instant ce qui a pris tant de temps à être construit. Et il faut assurément être rempli du Saint-Esprit pour savoir offrir des paroles de grâce, de bénédictions qui vont édifier. Cinquième domaine où la vie nouvelle doit se manifester, non à la rancune, oui au pardon. Et pour Paul, un enfant de Dieu doit être caractérisé avant tout par cette aptitude à offrir avec la même générosité le pardon que Dieu nous a offert en Christ. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté, et vous aurez remarqué au passage le crescendo dans ce flot et ce de pathologies spirituelles qui sont comme des maillons qui sont liés les uns aux autres et qui vont crescendo, que tout cela disparaisse du milieu de vous. Il y a l'idée d'une intervention chirurgicale, d'une intervention de chirurgie lourde, efficace. Il ne faut pas lésiner sur les moyens pour faire disparaître ce qui caractérise l'ancienne manière de vivre. Verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Voilà le modèle, l'image. Verset 1 du chapitre 5, « Devenez donc les imitateurs de Dieu. » On appelle ça la théologie de l'imitation. Tel père, tel fils, un fils imite son père. « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Quelqu'un a dit, on peut mesurer la maturité d'une personne au temps qui s'écoule entre le moment où elle encaisse un coup bas, elle subit une injustice, une injure, et le moment où elle va choisir de pardonner au point de ne plus tenir rigueur au coupable, le mal qu'elle lui a infligé. Sixième domaine où la vie nouvelle doit se manifester, je ne vais pas m'y arrêter, c'est dans les versets 3 à 7 du chapitre 5. Non à une conception débridée de la sexualité, oui à l'amour véritable. On vit dans un monde, et nous les Gaulois en Occident, on en connaît un rayon. Dans le domaine de l'humour, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on ne peut pas faire d'humour véritable et sain, S-A-I-N, sans descendre en dessous la ceinture. Et Dieu sait si la sexualité est souvent tournée en dérision ou elle prête à toutes sortes de sarcasmes, de propos salaces, propres à la presse de caniveau et à toutes sortes de bouffonneries, de débordements. Paul dit dans ses versets en substance que la sexualité, dans le projet de Dieu, c'est une réalité sacrée pour laquelle nous devons dire à Dieu notre reconnaissance et dire non à la contrefaçon et à cette conception débridée, faussée de la sexualité et oui à l'amour véritable. Je passe rapidement. Septième domaine où la vie nouvelle doit se manifester, non aux œuvres des ténèbres, oui à la marche dans la lumière. Au chapitre 5, versets 8 à 14, Paul dit que nous étions ténèbres, maintenant nous sommes lumière. Eh bien, nous devons marcher comme des enfants de lumière. Et là, l'image, elle est très parlante et éloquente. Huitième domaine où la vie nouvelle doit se manifester, chapitre 5, versets 15 à 17, Paul dit non à la folie humaine, oui à la sagesse spirituelle. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Rachetez le temps. Quelqu'un a dit, dans une journée de 24 heures, il y a assez de temps pour faire la volonté de Dieu. Rien que la volonté de Dieu, et toute la volonté de Dieu. Quand on met côte à côte les quatre évangiles qui nous relatent les faits et gestes et paroles de notre Seigneur Jésus, les spécialistes nous disent que, mis bout à bout, ces quatre évangiles équivalent, grosso modo, à un peu plus de 30 jours de ministère à temps plein. Bien sûr, à l'époque, ce n'était pas les semaines de 35 heures. Ce qui impressionne quand on lit la vie de Jésus, c'est que jamais Jésus ne donne un instant l'impression qu'il est débordé, qu'il est surbooké, surmené, et qu'il doit dire « non, non, mais je n'ai pas le temps, j'ai que 24 heures ». Bien sûr, Jésus, il savait à quoi dire oui, à quoi dire non. Il savait mettre de l'ordre dans ses priorités. Mais quand il est mort, il a pu dire « tout est accompli ». Il a rempli la mission de A jusqu'à Z. Et pourtant, il est mort quand même relativement jeune. On aurait pu penser, eh bien, quand même, s'il avait vécu jusqu'à 90 ans, on a besoin d'être éclairé, animé par le Saint-Esprit pour savoir à quoi dire oui, à quoi dire non, comment mettre de l'ordre dans nos priorités et comment ne pas gaspiller inutilement son temps, tout en sachant avoir un temps légitime pour se reposer, se ressourcer et pour les loisirs. Apprendre à discerner la volonté du Seigneur. Dieu sait si on a besoin d'être renouvelé par le Saint-Esprit. Et puis j'en arrive à mon dernier point dans lequel la vie nouvelle doit se manifester, un texte bien connu. Paul dit « Non à l'ivresse alcoolique, oui à la plénitude du Saint-Esprit. » Au verset 18. Remarquez que l'alcool ou l'ivresse alcoolique et le Saint-Esprit ou la plénitude pneumatique présentent un point commun. C'est que sous l'emprise ou sous l'empire de l'un ou de l'autre, on a envie de chanter. Mais, vous l'avez compris, ce n'est pas du tout la même chanson. Parce que d'un côté, il y en a qui vont chanter la Marseillaise en breton, et de l'autre côté, il y en a qui vont chanter dans « À toi la gloire » ou « J'aime l'éternel ». Verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Et dans les versets 19 à 21, Paul va énumérer quatre aspects concrets, pratiques, par lesquels la plénitude du Saint-Esprit se manifeste. Certains interprètes pensent que ce sont plutôt quatre conditions. Personnellement, je me rallierais plutôt à ceux qui pensent que ce sont quatre conséquences. Quand on est rempli ou animé du Saint-Esprit, l'image, c'est un peu un gant et une main. Je suis le gant et le Saint-Esprit est la main. Et quand je me laisse conduire par le Saint-Esprit, il y a quatre choses qui se passent. Verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Les spécialistes pensent que là, il est question d'un culte communautaire. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai envie de retrouver les frères et les sœurs en présentiel, pour ceux qui ont ce privilège et cette possibilité. J'ai envie de retrouver les frères et les sœurs pour chanter ensemble les louanges du Seigneur. Et ça, Dieu sait si ça fortifie les liens de la communion fraternelle. Donc, première manifestation de la plénitude du Saint-Esprit, la communion fraternelle pour célébrer le Seigneur. Deuxième domaine où la plénitude du Saint-Esprit, et ce n'est pas limitatif, se manifeste, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. À titre personnel, et tout seul dans ma salle de bain, je peux être fâché avec la musique, ne sachant discerner la différence entre un do et un la. Je chante de tout mon cœur et je dis « Seigneur, je t'aime ». Je connais une personne trisomique et je peux vous le dire que quand je la vois au culte et qu'elle chante de tout son cœur, ah, je me dis « mais je n'ai pas le handicap qu'elle, elle a, mais au moins elle, elle est libre ». Et elle chante de tout son cœur et elle dit « Seigneur, je t'aime ». Et ça, c'est ce qui se passe quand on est rempli du Saint-Esprit. Troisième domaine où la plénitude du Saint-Esprit se manifeste, verset 20, « Rendez continuellement grâce pour toute chose à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ». Vous qui étiez au week-end à Tin Ranch sur le contentement, on a parlé de ce beau verset 20. Quand je suis rempli de l'Esprit, Dieu me donne un visage qui dit oui à la vie et qui me rend reconnaissant pour les mille et un détails de la vie de tous les jours. À l'opposé de l'attitude de reconnaissance, c'est les plaintes, les jérémiades et l'insatisfaction. Et puis enfin, le quatrième domaine où la plénitude du Saint-Esprit se manifeste au verset 21, c'est dans mon rapport à autrui, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, je trouve ma juste place dans mon rapport à autrui. Et dans les versets qui suivent, que nous n'allons pas voir, eh bien, c'est là où Paul va dire, les femmes se soumettent à leurs maris, les maris aiment leurs femmes, les enfants obéissent à leurs parents, les parents n'abusent pas de leur autorité, les salariés respectent leurs employeurs et les employeurs ne traitent pas injustement leurs employés. Voilà le principe. Alors, donc la plénitude du Saint-Esprit se manifeste dans le domaine de la communion fraternelle, l'adoration à titre privé, la reconnaissance et puis la soumission mutuelle. Et tout cela, nous le rappelons, comment changer le dépouillement, le revêtement et le renouvellement. Et en terminant, je vous pose ces deux questions. Existe-t-il dans ma manière actuelle de vivre des traces de mon ancienne manière de vivre? Lesquelles? Et concrètement, comment y remédier? Alors, on a parlé de la théorie, mais il faut que ça se traduise dans la pratique. Le dépouillement, le revêtement et le renouvellement. Et puis enfin, dans le souci de progresser, quels objectifs concrets et réalistes puis-je me fixer dans les domaines suivants? Le rapport entre vérité et mensonge, colère positive, justifiée et colère négative, la bienfaisance, le vol, les paroles édifiantes, paroles blessantes, et puis le pardon et la rancune. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite la riche bénédiction de notre Seigneur. Et j'espère vous avoir donné envie de redécouvrir cette belle épître de Paul aux Éphésiens. Amen.